Mon père, par rapport à l'analyse de la personne humaine, nous sommes rendus à la dimension du corps. Et la fois dernière, vous aviez insisté sur le fait que le corps était ce par quoi la personne se manifestait. Et nous avons une première question qui... c'est plus une demande qu'une question. Le pape Jean-Paul II, dans son livre « Amour et responsabilité », regarde le corps comme étant ce par quoi la personne se donne. Et je ne sais pas si vous pouviez nous dire un petit mot là-dessus.
Il faut se poser toujours la même question au point de vue philosophique. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cette alliance de l'esprit et de la matière? La création des anges, ça ne pose pas de problème. Tandis que la création de ces drôles d'individus, qui est l'homme, une âme spirituelle, évidemment, moins puissante que celle de l'ange, mais quand même, elle est belle, notre âme. Et puis notre corps, qui est moins beau, mais qui nous manifeste à l'extérieur. Nous nous voyons par notre corps. Et c'est par notre corps que nous dépistons notre âme. Nous essayons de la saisir. Nous ne la saisissons pas directement. Notre âme est prisonnière de notre corps, d'une certaine manière. Une prison très spéciale. Mais quand on voit les conséquences du mal et du péché chez certains paralysés, par exemple, des jeunes qui ne peuvent pas marcher, qui sont conduits, si le corps est quand même une terrible prison. Et c'est vrai que philosophiquement, du reste, c'est très curieux à voir que cette théorie du corps prison de l'âme et cette théorie du corps qui permet la manifestation ont été soutenues. Autrement dit, philosophiquement, on a eu une conception très pessimiste du corps. Le corps nous emprisonne. Je ne peux pas vivre en même temps deux situations tout à fait différentes et qui pourtant sont pour mon cœur essentielles l'une et l'autre. Et je dois constamment faire des options. Quand je suis ici, je ne suis pas là-bas. Et donc, chaque fois que je suis ici, je fais le deuil de là-bas. Et nous sommes tous comme ça. Notre lieu, c'est le lieu de la vie religieuse. Et nous avons quitté ce premier lieu de la famille. Et ce premier lieu de la famille risque quelquefois, parce qu'il ne supporte pas la séparation, à devenir tel que ce choix d'un autre lieu devient impossible. C'est très très curieux de voir cela, mais c'est constant. les philosophes ont bien distingué personne et individu. Individu, c'est notre corps. Nous sommes tous des individus. Et en tant qu'individu, nous nous frottons. Asidus, asinum, frecat. Je dicton. Ça nous réchauffe. On se réchauffe sur l'âne. Notre individuation, c'est quelque chose de très beau, mais en même temps quelque chose de terrible, parce que ça nous sépare. Ça nous permet l'union, et ça nous sépare. Et il y a cette difficulté de dominer la possibilité de s'unir aux autres et de ne pas être trop séparés. D'aller très loin dans la séparation pour une unité plus parfaite. C'est très très connu. Notre vie est faite d'union et de séparation. Et le corps est là pour permettre ces unions et ces séparations. Par le corps, il peut y avoir une union quasi substantielle avec un autre par le corps. Il peut y avoir une séparation quasi substantielle. On vit en ermite. On vit seul. Cet égoïsme métaphysique du corps. Le corps peut nous donner un sens très particulier de l'autre. L'autre existe comme autre à cause du corps. C'est-à-dire qu'il reste toujours quelqu'un d'énigmatique, l'autre. L'autre, même si je le connais très bien, il peut avoir des réactions inconnues de moi. Subitement, qui éclate. S'il n'y avait pas le corps, l'autre serait quoi? Serait celui que je connais et que j'aime. À cause du corps, c'est celui qui est autre que moi, qui a une vie individuelle autre que la mienne. Et dans sa vie individuelle autre que la mienne, il y a un mystère que je n'arriverai jamais à épuiser. L'autre est toujours un mystère pour moi. Je le connais. Il est peut-être mon ami, mais il y a en lui des réactions qui viennent de son corps, qui viennent de tout l'atavisme que j'ignore. Il y a quelque chose d'énigmatique à cause du corps. Mon âme n'est pas énigmatique, mais le corps crée ces oppositions, ces incompréhensions. Ça, c'est l'individu. La question des races. Pourquoi il y a encore une division que les hommes ont fait et que Dieu a acceptée et qui, selon l'Écriture, est faite pour qu'on soit plus unis à Dieu. Selon l'Écriture. Comment se fait-il qu'il y ait des blancs, des noirs, des rouges, peau rouge, qui ont disparu, plus très nombreux. Et ça, c'est le corps, c'est pas l'âme. Il n'y a pas une âme africaine. Non, je regrette. Il y a une âme humaine, mais pas d'âme africaine. Il n'y a pas d'âme européenne de blanc. Je regrette. Il y a une âme humaine. Il n'y a pas une âme de l'ancien monde et du nouveau monde. Non. C'est l'individu qui est tout là. C'est très très important pour nous, ça, vous voyez, de voir jusqu'où va l'individuation. Non, jusqu'où l'élément corporel va jouer dans notre développement personnel. Est-ce que l'individuation nous donne une nouvelle fin, une nouvelle finalité? Ou est-ce que l'individuation n'est faite que pour nous donner une manière particulière de vivre? Or, une manière particulière de vivre ne touche pas la finalité. Et c'est la finalité qui fait l'unité. Et comme c'est important ça, parce que si on n'est pas très attentif, l'individuation, c'est ce que nous voyons, et donc nous mettons ça en premier lieu. Nous avons, par exemple, un sens de dire, mais l'individu, il y a dans l'individu quelque chose que l'autre ne peut pas comprendre. Est-ce que c'est juste ? L'individu, le petit nain, c'est le meilleur des individus, le petit nain. Et puis, au contraire, des géants. Et la Bible nous a montré tout ça en l'augmentant des géants, comme si c'était une race particulière. Nous sommes arrivés à faire que le petit individu et le géant sont de la même race. Tiens, 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 race humaine. Que le blanc et le noir sont de la même race humaine. Et donc, l'individuation est relative. La personne développe aussi bien le blanc que le noir et que le rouge. Peu importe. La finalité est la même. Mais l'individuation sont différents. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'au fond, s'il n'y a plus de finalité, comme dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de finalité. Par le fait même, l'individuation va prendre le commandement. Et la déviation ne peut pas nous montrer l'unité qui peut exister entre le blanc et le noir, entre le pygmée et le géant. Le conditionnement est différent, mais pas la finalité. Oh, c'est très important de dire ça. Donc, si Dieu a voulu qu'il y ait parmi les créatures l'homme, qu'il y ait une créature qui soit à la fois corporelle et spirituelle, et unir les deux. Dieu a voulu par là manifester son amour, sa miséricorde, se communiquer plus. Et il se communique plus parce qu'il peut se communiquer dans une plus grande diversité. Et en même temps, plus la diversité est grande, plus l'unité doit être grande. La diversité du conditionnement de celui qui naît dans la brousse ou de celui qui naît dans une grande ville, d'un conditionnement extrême quand on le regarde de près. L'univers de celui qui est né dans la brousse, l'univers de celui qui est né dans une grande ville, conditionnement totalement différent. Et cependant, si le conditionnement est totalement différent des individus, cependant, au point de vue de l'âme humaine, il y a une similitude. L'âme humaine est la même. Ce qui fait que du développement spirituel, personnel, il y a une possibilité de s'entendre, une possibilité de s'aimer. Et en même temps, parce qu'il y a une diversité très grande, au point de vue matériel, il peut y avoir d'occasions de division, il peut y avoir des tas d'occasions d'unité plus grand. Quand la diversité est plus grande et que l'unité arrive à dépasser cette diversité, cette unité est victorieuse d'une diversité plus grande. Et donc, elle est plus parfaite. Pourquoi Dieu a-t-il voulu la création de la race humaine et que cette race humaine se divise, que l'homme prenne tout de suite des caractères très différents en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Ça, tout ça, c'est voulu par Dieu. Cette diversité, pourquoi ? La vue des hommes doit se poser la question pourquoi ? De voir que par le corps, l'individu, l'individualité est très grande, elle est substantielle, parce que mon corps est uni à mon âme d'une façon substantielle. pas accidentelle, mais de façon substantielle. Je suis un individu distinct d'un autre individu. Distinction qui va jusqu'à un aspect substantiel, pas accidentel. Substantiel et qui se manifeste dans une manière de vivre différente qui est substantielle. Donc il va très loin. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Alors que si tous les individus étaient frères et sœurs, étaient très proches, l'unité serait plus facile. Mais la manifestation de l'âme serait moins parfaite. Donc Dieu a voulu cette diversité pour qu'il y ait une communication plus grande de la diversité, de la richesse de l'âme. Il s'épanouit différemment dans un corps individuel très différent. Et pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pour que la race humaine soit plus parfaite. Pour que l'âme humaine se manifeste dans une diversité plus grande. Alors, pourquoi Dieu a-t-il voulu cette union dans l'individu, du corps et de l'âme? Première raison. La créature peut devenir source de vie. Donc une ressemblance plus grande avec Dieu. Et ça vient tout de suite là. À cause du corps, il y a la procréation. Il n'y a pas de procréation chez les anges. Les anges ne sont pas source de vie. L'homme, comme père et comme mère, sont source de vie. Et ça, c'est quand même une fameuse ressemblance avec Dieu. Être source de vie. Que l'ange n'a pas. Et qui est unique chez l'homme. Ça le met dans une communion très particulière avec Dieu. Autrement dit, le principe, princeps, le principe est plus développé chez l'homme que chez l'ange. Il est développé d'une façon très unique, puisque l'homme peut être source, principe de vie. Et la femme peut être principe de vie. C'est quand même quelque chose d'unique et qui caractérise l'homme et la femme. Dieu a voulu créer l'homme et la femme. Pour cela, c'est la finalité au niveau végétatif. Donc une finalité quasi substantielle qui est l'enfant, le fruit commun de l'homme et de la femme. Par le point de vue de la procréation. C'est en ce sens-là que la procréation est divine. L'homme croit c'est la grande erreur aujourd'hui. L'homme croit que la procréation est remise entre ses mains. Et donc que l'homme peut en faire ce qu'il veut. Il oublie que la procréation est un don de Dieu, un don substantiel qui permet à l'homme et à la femme d'être principe, source. Il y a donc quelque chose de très unique, une créature qui est source. L'athéisme philosophique du siècle précédent, la grande confusion, c'est qu'on voit qu'on ne peut pas être à la fois tout entier relatif et tout entier principe. Et c'est évidemment quelque chose de très curieux. Et ça, c'est le corps qui permet ça. Sans le corps, non. Le corps permet à la même réalité de découvrir sa dépendance radicale à l'égard de l'être premier et d'être principe et source à l'égard d'une autre créature. C'est le grand privilège de la personne humaine. C'est quelque chose qui va très loin, ça. Et c'est quelque chose que l'homme, aujourd'hui, ne reconnaît plus. L'homme, aujourd'hui, ne sait plus ce que représente cette communication faite par le Créateur qui permet à la créature d'être comme le Créateur principe. C'est une ressemblance avec Dieu qui est très étonnante. Dieu est principe d'être. Et le père peut être principe de vie. Et la mère peut être principe de vie. Donc, il y a une similitude, une analogie de similitude entre Dieu créateur de l'être et la créature humaine. Créatrice de vie, source de vie. Premier point de vue, et c'est quelque chose d'extraordinaire, que Dieu permette à une créature d'avoir avec lui cette ressemblance, d'être principe. Si la création, l'engendrement vital n'existait pas, nous n'aurions pas le sens de ce qu'est une source, un principe. L'artiste n'est pas principe, n'est pas source, parce que l'artiste modifie ce qui déjà existe. C'est la grande différence. Donc il y a quelque chose de très très important à saisir. À cause du corps, point de vue artistique, le corps n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est l'intelligence. C'est l'idée. L'intelligence peut avoir des idées, peut construire, peut faire, mais elle ne peut pas construire et faire en prenant d'elle-même la matière. Dans l'ordre artistique, l'homme transforme une matière qui existe déjà. Cette transformation va de plus en plus loin avec le progrès de la technique. Fait que la transformation de la matière initiale est de plus en plus forte. Jusqu'où l'homme peut-il aller dans cette transformation de la matière initiale? L'art appelle l'art. La construction appelle la construction. Le facere appelle le facere. Et donc il y a comme un envoûtement. On est saisi par ça. Et on voudrait que tout provienne de l'homme. Parce que par le point de vue du facturé, ça provient de l'homme. Il met son nom sur les choses qu'il a découvertes. C'est les nouveaux produits. C'est très étonnant, ça. Donc, vous voyez, les deux aspects particuliers. À cause du corps, donc à cause de la matière, c'est que la créature peut devenir principe de vie. La créature peut transformer le monde physique par la matière. Alors, la matière, je la connais grâce à mon corps. C'est mon corps qui est en connaturalité avec la matière. Ce n'est pas mon âme. Mon âme a au contraire une horreur de la matière. Mon âme spirituelle. Elle n'a pas du tout ce contact immédiat. Mais par mon corps, il y a un contact immédiat. Et par mon corps, j'aime la matière. Pourquoi ? J'aime la matière. Par mon corps. Parce que la matière parle de moi. La matière parle de mon corps. Et mon corps, c'est ma substance. Ça fait partie de ma substance. C'est un élément de ma substance. Familiarise avec la matière, je la transforme. La matière devient mienne parce qu'elle est transformée. Elle dit autre chose. L'élément formel de l'art, c'est la forme, hein, c'est pas la matière. Mais la matière est nécessaire pour cette transformation de la forme. C'est très, très curieux, du point de vue de l'art. Les anges ne sont pas des artistes. Hein, je dis ça pour les chantres. Le chant des anges, c'est très spécial. Écoutez bien le chant des anges. Hein. Ça ne vous apprend pas à chanter. ça présuppose le corps. Et l'orchestre, ça présuppose le corps. Et l'art musical est sûrement l'art le plus spirituel. L'art musical peut être divin. L'art culinaire ne pas divin. La grosse différence. Parce que l'art est spirituel. Et comme spirituel, il peut aller très loin. Il peut toucher le divin. Alors, il n'est pas divin surnaturel. C'est un divin artistique. Et le divin artistique n'est pas surnaturel, puisqu'il provient de l'homme, et c'est l'homme qui le fabrique. Donc, l'art, dans toute sa variété, les cinq sens qui sont source des cinq modalités artistiques. Cinq modalités artistiques, comme il y a cinq connaissances humaines directement liées à nos sens. Donc, ça va très loin, ce point de vue artistique. Et il est très important parce que il nous est donné par le corps. L'homme ne peut pas se passer de l'art. C'est pour ça que l'art fait partie de la personne. C'est la négation de l'art mettrait l'homme, l'individu, dans une extraordinaire pauvreté, parce que le monde physique ne serait plus à sa disposition. Donc le monde physique serait uniquement pour lui montrer ce qu'est l'altérité, l'autre. Tandis que grâce à l'art, le monde physique devient une matière à transformation. Le monde physique jusque chez les animaux, puisqu'on les dresse. Et le dressage, c'est la main humaine sur l'animal. Et c'est donc encore l'art. Rendre un animal domestique, c'est une œuvre d'art. Et rendre l'animal domestique, c'est une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est l'homme qui va jusque-là. Transformer tout le monde physique, tout le monde animal inférieur à l'homme. C'est en ce sens-là que l'homme est le roi des animaux, naturellement, puisqu'il donne à l'animal une possibilité d'une finalité supérieure à l'animal, l'animal domestique. L'animal domestique, c'est un animal qui est familiarisé avec l'homme et donc qui s'est élevé jusqu'à l'homme. Ça va très loin du point de vue artistique. C'est l'homme qui devient maître du monde physique par son corps. Et c'est par son corps qu'il peut être le petit roi de l'univers. Ou le grand roi de l'univers, parce qu'aujourd'hui, ça prend des dimensions fantastiques, dominer l'univers. C'est le point de vue artistique qui donne l'homme. Donc, deux choses qui apparaissent tout de suite. Pourquoi l'union de l'âme et du corps. Procréation, art. Donc, domination de l'âme. Procréation. Est-ce que je peux aller plus loin ? Ça, c'est net. C'est deux aspects qui dépendent de mon corps et qui me permettent d'exercer sur l'univers un pouvoir unique. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il peut y avoir entre les hommes une amitié. Avec le monde physique, le monde inférieur à l'homme, des animaux, il n'y a pas d'amitié. Je n'ai pas d'amitié avec mon chat, sauf les vieilles filles. Il n'y a pas d'amitié avec le chat. Il n'y a pas d'amitié avec le chien. Il n'y a pas d'amitié avec le cheval. Il n'y a pas d'amitié avec les animaux. Il y a une amitié avec l'homme. C'est autre chose que la procréation. La procréation implique une certaine amitié. Mais au-delà de la procréation, l'amitié demeure comme quelque chose tout à fait caractéristique de l'union de l'âme et du corps. L'amitié. Dans l'amitié, la sensibilité est nécessaire. Le développement de la sensibilité est nécessaire. Il n'y a pas d'amitié sans le développement de la sensibilité, sans le développement de la passion. Mais c'est une éducation de la passion. La grande éducation de la passion, c'est l'amitié. Et qui ne peut se faire que par l'amitié. Parce que la destruction de la passion ne suppose pas l'amitié. Mais l'éducation de la passion devient humaine grâce à l'amitié. Alors, il y a là quelque chose aussi de très particulier. Il n'y a pas d'amitié chez les anges. Les anges sont des solitaires et ils vivent dans la solitude. Tandis que l'homme implique l'amitié. Puisque l'homme peut réaliser l'amitié, il peut réaliser une communauté. C'est grâce à l'amitié qu'il réalise une communauté humaine et donc la politique. Toute la politique dépend de la possibilité de l'amitié.
Père, pourquoi est-ce que ce n'est pas grâce à la nature tout court ?
Parce qu'il faut pouvoir se communiquer.
Mais
entre les anges, il n'y a pas d'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié ? L'amitié n'est pas n'importe quel amour. L'amour dépend de la nature. Mais l'amitié implique une réciprocité. Un don. Et un don substantiel grâce au corps. Il n'y a pas de don substantiel indépendant du corps. C'est grâce au corps qu'il y a une communion, un don substantiel, et qu'il peut y avoir une amitié. Donc, c'est un privilège que Dieu nous donne, l'amitié.
Ce
c'est typiquement humain. C'est en ce sens-là que l'amitié est le sommet de l'éthique. Parce que l'amitié implique un don. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un sans lui avoir donné quelque chose. Premier don que vous faites aux petits-enfants, vous leur donnez une poupée, un petit don. Vous leur donnez du chocolat, un petit don. Il n'y a pas d'amitié sans don. Il y a des gens qui vous disent, ah, c'est curieux, je n'ai pas d'amis. Alors on avait dû dire, mais est-ce que vous vous êtes donné? Ou est-ce que tout simplement vous attendez les dons? Quelqu'un qui attend les dons sans se donner, il n'y aura jamais une amitié. Oui, alors là, c'est tout le point de vue très humain de l'amitié, propre à l'homme. Et c'est un don que Dieu fait à l'homme de pouvoir réaliser cela. Et cette amitié, on la retrouve pour la procréation. Mais elle n'est pas liée à la procréation. Elle va plus loin. Elle regarde la personne. Je quitte l'individu pour découvrir la personne par l'amitié. Parce que tant que vous aimez l'individu, vous restez dans la passion. Quand votre amour est passionnel, c'est que vous dévorez l'individu. Mais quand votre amour devient personnel, alors à ce moment-là, c'est la personne qui commande mon amour. Vous voyez ? Alors, je peux là saisir pourquoi le corps. Le corps permet à Dieu de communiquer la vie pour faire de l'homme et de la femme des principes de vie. Le corps permet à l'homme et à la femme de réaliser une véritable amitié. Le corps permet à l'homme de se manifester. L'art. Alors le corps peut être terriblement envahissant. À ce moment-là, le corps devient l'obstacle à l'amitié, à la personne. C'est l'individu qui domine.